sur Radio Chablais.
L'Inforoute avec Volet du Rhône et son partenaire Stobag, spécialiste en volets, store et porte de garage. Volet-du-rhône.ch.
La circulation est fluide, prudence et bonne route.
Vos inforoutes au 0800 700 725.
Chablais à Aigle avec
Cupfer et Fils SA. Débouchage et nettoyage de canalisation. Cupfersa.ch.
La petite cave du Chablais à Colombey et Villeneuve pour toutes vos consommations sans modération aussi depuis la maison sur petitecave.ch.
Ami Guémartin, votre espace papeterie à Aigle et à Vevey. Toute fourniture de bureaux et scolaires sous un seul toit et sur amiguet-martin.ch.
Le restaurant Garden on the Lake de l'hôtel Bon Rivage et sa terrasse au bord du lac, bon-rivage.ch, vous souhaite un bon appétit.
Le Tour du Chablais, ce mercredi, avec IDM Portes et Fenêtres, un spécialiste à votre écoute en Suisse romande. idmfenêtres.ch.
L'heure exacte avec Energy Green à monter, votre partenaire solaire près de chez vous. energy-g.ch.
12h01 sur Radio Chablais, un bon appétit à vous. Il est l'heure de faire un point sur l'actualité de ce lundi 29 avril 2024.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Voici les titres du journal.
Pour les 10 ans de la caserne de Vouvry, l'association des communes du Haut-Lac a ouvert ses portes ce week-end au programme Initiation aux activités des services de sécurité de la région. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Unihockey sur la Riviera. Hier à Saint-Léger, l'UHC Jauny et les Raptors de Vevey ont célébré leur fusion, l'occasion de dévoiler l'identité visuelle du nouveau club. Dorian Godon a remporté la dernière étape du Tour de Romandie au sprint hier, mais c'est l'Espagnol Carlos Rodriguez qui s'impose au classement général, très disputé tout au long de cette édition.
Pour la météo, un temps moins en partie ensoleillé pour ce lundi. Demain, un temps assez ensoleillé avant le retour dans le courant de l'après-midi des nuages. À noter le retour du feu demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbey. Bonjour Guillaume.
Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Expérience de la voiture tonneau, simulateur de tir au pistolet, extinction de feu avec les jeunes sapeurs-pompiers ou encore sauvetage en hauteur. Voilà des exemples d'initiation proposées à la population du Haut-Lac ce week-end à l'occasion des 10 ans de la caserne de Vouvry. L'association des communes du Haut-Lac, la CHL, a ouvert ses portes aux intéressés le temps d'une journée. L'occasion de découvrir les activités des services de sécurité de l'association. Les explications du président de la commission sécurité de l'Assemblée des délégués de la CHL, Jacques Mettet, accompagné par le président gingolais Damien Roch.
C'est une opportunité unique pour la population de voir le travail des gens qui assurent la sécurité 24 heures sur 24 de la commune. Donc ils pourront voir le matériel, ils pourront assister à des démonstrations. L'état-major de conduite va montrer les points de réunion d'urgence, c'est-à-dire c'est en cas de catastrophe comment la population doit se comporter. Également, il y a des ateliers sur la prévention incendie, donc on peut apprendre à éteindre une friteuse aujourd'hui par exemple. Bien sûr pour les enfants, c'est un peu animé, château, etc. Et il y a la partie samaritain, parce que les samaritains, on les oublie, mais c'est quand même un maillon important dans la chaîne d'intervention, puis aussi dans la sensibilisation aux gestes de premier secours. Donc.
Il y a aussi la PIHL, la police intercommunale du Haut-Lac, qui a aussi une voiture tonneau, on peut tester une voiture tonneau.
Ouais, j'allais le dire, c'est le premier truc qui a marqué mon attention quand je suis arrivée, une voiture un peu dans les airs. Le concept, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est de pouvoir tester l'impression qu'on a quand on a un accident. Et ouais, c'est assez impressionnant.
L'idée, c'est de montrer aux gens que s'ils n'ont pas la ceinture, quel est l'effet dans la voiture.
Damien Roch et Jacques Mettet étaient au micro de Julie Gay. La police intercommunale, le centre de secours et incendie, les Samaritains ainsi que l'état-major de conduite régionale du Haut-Lac composaient les divers services présents samedi à Vouvry. L'homme qui avait dénoncé des cas de maltraitance au sein d'un EMS à Saxon a écopé de 5 ans de prison ferme. Le tribunal de première instance du 3e arrondissement pour les districts de Martigny et de Saint-Maurice l'a reconnu coupable de plus d'une dizaine d'infractions, notamment d'escroquerie, de calomnie aggravée et de faux dans les titres et dans les certificats. Le trentenaire qui s'était prétendu infirmier ne pourra plus non plus exercer une activité professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans. Pour rappel, l'affaire débute en 2020 avec un témoignage dans l'émission mise au point de la RTS. L'accusé y dénonce des cas de maltraitance à l'encontre des résidents d'un EMS à Saxon dans lequel il avait été employé comme infirmier. En juillet 2023, après enquête, l'EMS est blanchi par la justice et l'administration cantonale. Le nombre de cas de maltraitance infantile constatés dans les cliniques pédiatriques suisses s'est élevé à 2097 en 2023, un niveau jamais atteint auparavant. Cette augmentation de 13% sur un an s'explique par l'amélioration du recensement.
Que faire des statues ou autres œuvres provenant de notre héritage colonial ?
Une question que se posent aujourd'hui de nombreuses communes. Confrontée à une peinture murale raciste dans une école, la ville de Berne l'a déplacée dans son musée d'histoire. Elle a donné carte blanche à un collectif de militants pour gérer le projet. Après de nombreuses oppositions, des difficultés techniques et financières, le résultat est là. L'exposition « Résistance, comment aborder le racisme » à Berne a ouvert ses portes jeudi dernier. Le collectif tenait à placer cet objet colonial au musée plutôt que de le contextualiser sur place. Les explications d'Isabelle Barros, historienne et membre du collectif.
Il était déjà contesté à plusieurs reprises, déjà aux années 80 par exemple. Il y en a des parents d'enfants, des enseignantes et enseignants à l'école qui ont remis en question la présence de cet objet dans l'école. Donc c'est en école primaire. Ils ont essayé de trouver des initiatives sur place, mais sans aucun succès. Donc par exemple, à un moment donné, ils ont essayé de coller sur la lettre N, un Nashorn, qui est un rhinocéros, pour essayer un petit peu de cacher l'image stéréotypée d'une personne noire. Il y en a eu des expériences, et finalement, ça n'a pas abouti à quelque chose de concret. C'est pas aux enfants et au corps enseignant de faire cette expérience, de contextualiser, d'avoir cette responsabilité. C'est la responsabilité de la ville, c'est la responsabilité de toute la société.
Des propos recueillis par Marie Vieumier, l'exposition se replonge dans les conditions de réalisation de cette peinture coloniale, mais elle questionne aussi notre rapport à l'histoire et au racisme, à voir jusqu'en juin 2025 au musée d'histoire de Berne. À l'étranger, le comité international de la Croix-Rouge ne remplacera pas l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Le CICR a déjà suffisamment à faire sans chercher à se substituer à d'autres organisations, affirme aujourd'hui son directeur Pierre Krenbull. Les efforts pour parvenir à une trêve dans cette guerre entre Israël et le Hamas à Gaza semblent avoir progressé hier. Le mouvement palestinien affirme n'avoir relevé aucun problème majeur quant à une dernière proposition de cesser le feu. À une quinzaine de jours de la course à la Palme d'Or, le 77e Festival de Cannes a annoncé aujourd'hui la composition de son jury, dont fait partie Omar Sy. Le festival, qui se tiendra du 14 au 25 mai, a choisi 4 hommes et 4 femmes qui officieront sous la présidence de la réalisatrice Greta Gerwig, figure du cinéma d'auteur américain devenue reine du box-office avec Barbie l'an dernier. En sport, en football, invaincu durant ce mois d'avril en première ligue, le FC Monté s'est offert une manita hier. Les Chablaisiens se sont imposés 5-0 sur la pelouse de Port-Alban Glétran. Grâce à ce succès, les joueurs de Lucien Desnervaux grimpent au 12e rang du classement et prend 12 points d'avance sur le premier relégable Puy. Et le Vevey Sport, 5e, s'est pour sa part imposé 2-0 face à l'équipe qui occupe la 2e place, les moins de 21 du FC Sion.
En février dernier, l'UHC Journy et les Raptors de Vevey avaient annoncé leur fusion.
Le nouveau club Unihockey Riviera Journy-Vevey est désormais prêt à s'imposer sur la scène sportive régionale et c'est mercredi le 1er mai qu'il sera officiellement actif pour marquer pleinement cette nouvelle étape de vie. Une journée de fête était organisée hier à Saint-Léger-la-Chiesa, l'occasion d'échanger sur les enjeux du sport dans la région mais surtout de dévoiler la nouvelle identité visuelle, symbole de l'avenir de cette pratique sportive sur la Riviera. Un programme qui a réjoui Marc Chapuis, actuel président de l'UHC Journy et futur co-président du nouveau club.
Beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir aussi à voir l'engouement qu'il peut aussi y avoir autour, alors aujourd'hui du dévoilement, mais aussi pour la suite. On a eu beaucoup aussi de retours positifs, puis c'est des choses aussi qui nous portent et c'est des choses qui nous permettent aussi de sentir qu'on est dans le juste et puis qu'on... Voilà, le fait de prendre du temps, le fait de réfléchir, et ben finalement, ça parle aussi aux gens. Donc ça peut que nous réjouir.
Prendre du temps en collaborant, c'est ce qu'ont fait les deux clubs de Journy et Vevey durant 4 ans avant de fusionner. Alors à savoir si cette dernière était finalement une issue attendue, l'actuel président des Raptors de Vevey et futur co-président du nouveau club, François Chapuis, a sa réponse.
Au départ, si on nous avait dit qu'on fusionnerait aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas cru. Mais effectivement, plus le temps a avancé, plus les choses se sont mises ensemble, plus on a compris que ce qu'on faisait portait en fait les gens et puis développait notre sport et c'était positif. Bah, pour nous, c'est devenu de plus en plus rapidement une évidence qu'il fallait qu'on puisse renforcer nos collaborations, ce qui s'est traduit par une fusion qui aujourd'hui paraît évidente effectivement. Et puis c'est pour ça qu'on est d'autant plus réjouis d'y être arrivé.
Un sujet préparé par Julie Gay.
Le Français Dorian Godon a remporté hier au sprint la cinquième et dernière étape du Tour de Romandie à Vernier.
Au classement général, par contre, c'est l'Espagnol âgé de 23 ans, Carlos Rodriguez, qui s'impose au terme de cette ultime étape pluvieuse et mouvementée. Car avec 5 coureurs en 30 secondes, la course était loin d'être jouée avant le départ. Le commentaire à ce sujet de Richard Chassot, directeur de la manifestation.
C'est vrai que c'était humide et mouillé, mais un accueil très chaleureux de la région. Sur le parcours, un public très présent, avec beaucoup d'animation, des décorations. Donc une bienvenue au Tour de Romandie qui était fantastique. On avait déjà fait un premier départ ici à Vernier pour les femmes l'année passée en septembre. Et là, on a vraiment... c'est un gros projet, hein, départ et arrivée. Et puis un parcours un peu spécial pour une course par étape, parce qu'on a fait un circuit de 40 km dans la campagne genevoise. Mais le mauvais temps, je pense, nous amenait deux choses. Premièrement, une forme de classique, donc dans le sport, vraiment quelque chose qui était encore un suspense jusqu'à la fin, qui était difficile à gérer pour les équipes qui étaient à l'avant. Donc un peu de tension, un peu de suspense jusqu'au bout. Et puis évidemment aussi de montrer que la campagne genevoise, c'est pas plat. Les coureurs ont dû vraiment faire attention à pas perdre le Tour de Romandie sur cette dernière étape. Aller le gagner, il fallait attaquer. La situation de course avec un coureur d'Ineos et deux coureurs de Bora, 7 secondes ou 9 secondes derrière, était vraiment pas gagné pour Ineos. Par chance, j'ai envie de dire pour eux, ils ont une équipe qui est très très forte, solide. Ils savent gagner des grandes courses par étapes. Rodriguez est un solide champion, un solide leader. Et puis, il y avait plein d'attaques. C'est toujours difficile de tout maîtriser. Et puis, dans le final, bon, on l'a vu, hein, ça attaquait encore dans le final jusqu'au dernier kilomètre. Donc, pour un leader, c'est toujours... Voilà, on est, mais nous, la dernière étape reste une étape. On veut qu'elle soit disputée dans une manière sportive.
Des propos recueillis par nos confrères de OneFM et Radio Lac.
L'actu en continu, radiochablais.ch.
La météo avec Rices ARL à Colombey et son shop Husqvarna. Tondeuse, débroussailleuse, nettoyeur et un grand choix de pièces détachées. Rices-tech.ch. Rices-tech.ch.
Un temps au moins en partie ensoleillé pour ce début de semaine, malgré des passages nuageux et un ciel parfois voilé en raison de poussière venue du Sahara. 18 degrés sont annoncés au meilleur de la journée en pleine, 17 à Trois-Torrents et 14 à Lézin. Demain, un temps assez ensoleillé le matin avant une augmentation de la nébulosité dans l'après-midi. Le feu sera de retour et il sera modéré dans la plaine du Chablais. Il fera de 11 à 21 degrés en pleine, de 11 à 19 à Valillier et de 9 à 17 à Grillon.
La météo pour les 6 prochains jours, radiochablais.ch. I used to say I believe I can make it alone. Day after day, shallow words I rehearse with the bone. Cause the blues in my eyes when I smile made me wanna scream, made me wanna scream. But I used to say I believe I can make it alone.
It's all in my head, I'm ready to go. And I want you to know.
Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi, à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous ronge, on a changé.
Je vis dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau, sans s'arrêter, le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'écarte, je suis l'étranger à ton cœur, seulement regarde comme on est seul.
Stéphane sur Chablais avec Le Chemin, et ce sont Mickaël Caillou et Frédéric Morel, les invités de Florian Barbet pour Plan Large. Ça arrive dans moins de 15 minutes.
Radio Chablais, les petites annonces.
Afin de faciliter le quotidien de familles en difficulté passagère, la Croix-Rouge Valais recherche des gardes d'enfants à domicile. Dossier à envoyer par mail à l'adresse ged@croix-rouge-valais.ch ou contacter le 027 324 47 88.
Les annonces. Un espace à votre disposition. Radio-chablais.ch. Le
Tour du Chablais avec la bijouterie Pierre-Alain Christen à Aigle. Son grand choix de tissot et ses toutes nouvelles marques de montres. Festina, Candino et Jaguar. pa-christen.ch.
AXA Riviera Chablais, en partenariat avec l'agence principale Aurélien Clerc à Aigle, vous accompagne sur toutes les étapes du Tour du Chablais avec son assurance maladie complémentaire attrayante. Plus d'infos sur axa.ch.
Adam, le paradis, c'est ici. Une bateaujoire, du beach volley, des jeux, un mini-golf, un restaurant ouvert jusqu'à 23h et le toboggan de plus de 70 mètres.
La piscine d'Aigle est ouverte dès mercredi.
Adam, et ton maillot ?
Le Tour du Chablais avec Top Marché, 5 succursales dont Montet et Aigle, des prix avantageux et une grande sélection de viande suisse. top-marché.ch.
Le Tour du Chablais avec le garage et carrosserie du Viaduc à Villeneuve, votre spécialiste Opel de la région depuis 40 ans.
Du vendredi 3 au samedi 4 mai, le cycle d'orientation de Trois-Torrents fête ses 50 ans. Bal avec DJ pour toutes les générations le vendredi soir dès 20h. Une dizaine d'ateliers et un film documentaire sur les 50 ans du cycle d'orientation à découvrir le samedi de 10h à 17h. Buvette et restauration sur place. Info sur régiondansdumidi.ch.
Les étapes du Tour du Chablais avec Raiffeisen, sponsor principal.
Taichi Santé, médecine traditionnelle chinoise et acupuncture classique à Montreux, Montet et Martigny. Taichisanté.ch vous souhaite une bonne journée.
C'est un coup de cœur Radio Chablais.
Seul chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît.
Tout le monde se connaît.
Faut pas foutre la honte à ta famille modèle. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça. Toi, ça ne t'atteint pas. Tout est normal, t'es amoureux, tu ne choisis pas. Et fais une pause, t'as quelque chose de plus que ces gens-là. Ou t'as le droit de prendre qui tu veux dans tes bras. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça.
I'ma be
show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from it? I don't wanna wait. I'm taking, take me where I ain't been before. Can you blow my mind?
Sur Radio Chablais en ce lundi 29 avril 2024, c'est aujourd'hui que débute le sac à dos Chablais. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est un jeu qui va récompenser les plus fidèles d'entre vous, puisque on va remplir un sac à dos. Il est très joli, hein. C'est un sac à dos aux couleurs de Radio Chablais et des 40 ans de la radio. Et dans ce sac, on va mettre plein de choses, hein. Ça peut être de tout et n'importe quoi. Il faut bien suivre tout ce qui se dit à l'antenne, faire sa petite liste. Et ensuite, venir s'inscrire sur notre site internet radiochablais.ch pour que Cyril puisse vous appeler à 8h10 du lundi au vendredi. Alors, les objets qu'on met dans ce sac à dos peuvent être donné par n'importe quel animateur, que ce soit en semaine ou en week-end. C'est pour ça qu'il faut rester bien fidèle à Radio Chablais. Alors, on a commencé à le remplir aujourd'hui, ce sac à dos. On va continuer de le faire durant toute cette semaine avant de commencer à vous appeler à partir de la semaine prochaine. Le temps pour vous, hein, de venir sur notre site radiochablais.ch, remplir le formulaire et noter déjà ce qu'on va vous mettre à l'intérieur de ce sac à dos. Notamment, j'ai vu qu'il y avait des bonbons ou une écharpe déjà dans ce sac à dos. Il y a encore d'autres choses qu'on vous a donné depuis ce matin. J'espère que vous avez bien noté et puis que vous restez fidèles, parce que au fil des jours, on va rajouter encore et toujours des cadeaux. Il y a des beaux cadeaux, hein, qui risquent d'arriver, donc je vous conseille d'être bien fidèles à Radio Chablais. Sur Radio Chablais maintenant, il est quasiment 12h30, l'heure de Plan Large avec Florian Barbet.
Plan Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan Large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Michaël Caillou, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Morel, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on fait une petite exception dans cette émission en recevant deux personnes, deux artistes qui nous convient au crochetant à un foisonnement naturel. Les murmures de la forêt, c'est le titre de cette exposition autour de Bambi. Alors, c'est peut-être un peu court de dire autour de Bambi, Michaël Caillou, mais tout de même, déjà, vous avez le mérite de nous rappeler que Bambi, avant d'être un Disney, c'est un livre et qu'il a 100 ans, enfin, il a eu 100 ans.
Il a eu 100 ans.
2023. En 2023. Et en fait, c'est à l'occasion de la sortie de ce livre donc, qui fêtait les 100 ans cette année que j'ai eu l'occasion de proposer à Frédéric de venir avec moi au Crochetant et d'exposer ensemble nos œuvres et d'être en immersion dans une sorte de forêt un peu fantasmée.
Fantasmée, foisonnant. Moi, j'ai ce mot foisonnant dans la tête.
On peut parler de ça aussi. Un peu parfois inquiétante, un peu parfois solaire. Voilà.
Bon, Frédéric Morel, Bambi, ce personnage qui est dans l'imaginaire collectif, il vous a touché tous les deux ou
ben oui, il nous a touché tous les deux parce que je travaille aussi sur la nature, la chasse, la forêt. Donc le livre mettait en relief aussi le côté inquiétant de la chasse. Et je connais Michael depuis très longtemps et je suis infiniment reconnaissante de m'avoir invitée parce que l'expo est merveilleuse.
Alors en effet, c'est une expo originale hein, pour le Crochetant.
C'est original. Alors tout a été fait main dans la main avec Julien Hontou, commissaire de l'exposition. Et en fait, on a créé au fur et à mesure les décors, les œuvres. Pour la plupart, étaient déjà créées parce qu'en fait, le livre est sorti en octobre dernier. Et moi, en plus du livre, donc j'ai fait les illustrations, j'ai fait un travail de gravure et Frédéric a déjà travaillé depuis longtemps autour de pas de Bambi, mais comment on pourrait dire, autour de, oui, comme
si,
tu disais.
Bambi, c'est mon icône, c'est ma pièce principale.
Voilà, c'est la pièce principale.
Bon, on va expliquer un petit peu. Hein. Vous avez évoqué un livre, on en parlera. Vous avez la vraie histoire de Bambi. Vous nous rappelez justement qu'il y a ce roman avant le Disney des années 40. Et puis, vous, Frédéric, alors, vous êtes dans une sculpture tapissière ?
Oui, alors c'est des formes...
Pas pâtissière, hein, tapissière.
C'est des formes réalistes, puisque c'est les formes qui servent aux taxidermistes. Et après, je leur fais raconter une histoire, qui peut être une histoire de l'au-delà, de leur vie passée. Et c'est à base de tapisseries populaires, qu'on appelle parfois les canevas.
Bon, je vais décrire un peu, parce qu'on n'a pas l'image. Hein. Oui. À la radio, on a en taille réelle principalement des animaux à bois. Hein. On est dans l'univers de Bambi, donc des cerfs, des biches. Et vous avez utilisé le mot taxidermiste.
Oui.
On pourrait imaginer qu'il y a un animal mort sous vos tapisseries. Ce n'est pas le cas. Hein. Les taxidermistes travaillent avec des canevas.
Ils revivent justement parce que les canevas permettent de raconter leur histoire, parce qu'il y a des motifs, il y a des références très connues aussi dans ces motifs populaires. Donc, je raconte une histoire comme une bande dessinée en collant ce textile sur les formes.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la tapisserie? Enfin, ce sont des tapisseries anciennes, on voit, ce sont pas des...
Vintage, parce qu'il y en a des très anciennes qui sont plutôt dans le secteur de la décoration, mais... C'est justement ce côté populaire, ce côté un peu que les gens aiment et que tout le monde peut aborder. Voilà, tout le monde peut aborder.
Ouais, il y a un côté simple d'accès en effet, il y a un côté un peu désuet aussi dans la tapisserie.
Oui, je l'assume, je revendique.
On peut utiliser vintage, qui est un mot peut-être un peu plus glamour. Bon, alors ça c'est pour l'aspect en trois dimensions. Hein. Ce sont des sculptures qui ponctuent l'exposition de Michael Caillou. Vous alors, on est dans le dessin d'abord, puis, alors vous allez m'expliquer, parce que moi j'ai pas les termes techniques, je suis pas historien de l'art, tout cela se termine parfois en gravure sur métal, sur du qu'est le métal, du bronze.
Alors c'est du cuivre.
Du cuivre.
Donc en fait moi à la base je travaille tous les dessins. En fait là en l'occurrence c'était donc on parlait du livre tout à l'heure. Moi je dessine tout au feutre fin et après j'ai plusieurs particularités dans mon travail, c'est que à la base ces dessins sont faits pour que je puisse faire mes gravures. C'est-à-dire qu'en fait c'est des ébauches, des croquis à la base qui sont devenus après du design, parce qu'en fait au fur et à mesure du temps des éditeurs sont venus me voir en me disant mais vos dessins nous intéressent pour des éditions. Donc premièrement j'ai fait les illustrations de ce livre et j'avais envie, parce qu'en fait moi je connaissais pas Bambi, l'histoire de Bambi en fait en réalité, parce que ma mère m'a fait zapper.
Alors ça, on en parlera tout à l'heure, c'était intéressant.
Parce qu'elle voulait pas que je vois, donc j'ai jamais vu Bambi. En tout cas, quand j'étais petit. Et donc, du coup, De La Chaux m'a proposé il y a 2 ans de faire ce livre. Donc,
c'est l'éditeur.
L'éditeur. Et j'ai découvert cette histoire. Il y avait beaucoup de similitudes avec. Bon, je ne suis pas un chevreuil, mais j'ai été élevé tout seul par ma mère, etc. Et au départ, je ne sais pas, je me suis un peu identifié à Bambi. Je me suis dit, c'est presque moi, mais bon, je ne suis pas. Voilà.
Bon, on va parler de Bambi et de son impact. Hein, voilà. Tout à l'heure, on a tous un petit traumatisme, probablement.
Lié à cette histoire-là. Moi, je n'ai pas eu ce traumatisme.
Dans votre travail, vous disiez, il y a une partie un peu cabinet de curiosité, comme ça, où on voit les dessins en détail des animaux. Hein. C'est le début de l'expo, d'ailleurs.
Alors, c'est le début de l'expo. En fait, c'est un côté un peu didactique, ouais, dans le sens où, en fait, on montre comment je travaille, Julia.
Les études des différents animaux qui ensuite vont être intégrés.
Je pars toujours du dessin. Et ça, après, ça devient soit des gravures, soit des sculptures, plutôt des bas-reliefs, soit des illustrations, soit ça peut aller jusqu'à l'édition de produits. Moi, j'aime bien un peu avoir une vision à 360 degrés de mon métier. Et donc là, quand on m'a proposé de faire l'illustration et que j'étais un peu touché par l'histoire, j'ai eu envie de travailler sur la gravure, qui est plus mon travail personnel plastique. Et donc là, j'ai fait mes dessins, j'ai reproduit mes dessins par la gravure, en découpant le métal, en gravant, en imprimant et en mettant en relief mes cuivres, qui devient un peu une sorte de bas-relief.
Ça, il faut expliquer. Voilà. Hein, les cuivres, donc, c'est ce qui permet d'imprimer une série de, comment on appelle ça, de gravures.
Moi, c'est des gravures à l'eau forte.
Voilà. On les numérote, ça c'est le principe. Et puis après, dans l'éthique du métier, on devrait les tracer ou les détruire pour pas pouvoir les reproduire à l'infini et qu'elles perdent de la valeur pour ceux qui les ont achetées, acquises. Vous dites, bon, non, je ne vais pas tracer, c'est quand même du boulot, mais je vais en faire une autre œuvre, en fait.
Bah, à la base, si vous voulez, moi, ce qui m'intéressait quand j'ai fait la gravure, c'était la matrice en cuivre qui devenait une sorte de bijou. Voilà. Et donc, effectivement, quand on fait de la gravure, on détermine un nombre d'exemplaires d'impression et on raye la plaque pour déterminer la valeur. Par honnêteté. Ouais. Et puis, moi, effectivement, je ne vais pas rayer parce qu'en fait, au préalable, je les découpe. Donc, c'est beaucoup d'heures de. En fait, j'ai fusionné 2 techniques, la découpe du bijou à la main et la gravure à l'eau forte. Et donc, du coup, je passe énormément de temps à préparer mes plaques. Donc, évidemment, je n'ai pas envie de les rayer.
Ouais, mais ce n'est pas 2 coups de scie. Hein, c'est vraiment pointilliste ce que vous faites. C'est de la dentelle. Hein.
Et donc, pour ne plus imprimer, parce que je reste quand même, pour moi, c'est au calme de la gravure, au lieu de les rayer, je les mais en volume par des systèmes de repoussage, de ciselage, qui est des techniques de bijoux. Donc je mélange vraiment le bijou et la gravure à l'eau forte.
Voilà. Vous êtes un artisan-artiste, un artiste-artisan
Je serais mon propre artisan. Donc voilà. Non, je dirais que plasticien. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'aime bien, moi j'ai eu des formations où Frédéric était un de mes professeurs. Donc,
oui, il y a cette relation entre vous.
Moi j'ai fait une école où on touchait tous les supports, en fait, où il n'y avait pas de limite entre tel ou tel secteur, on va dire. J'ai même fait un peu de mode, j'ai même un peu c'était une époque où on gravitait un peu sur l'environnement, voilà. Donc
ça s'appelait mode et environnement,
voilà, c'est ça. Mais voilà, je vais plus aller dans la plasticité, plus dans la gravure et parfois plus dans le design pour travailler avec des éditeurs.
Vous donnez aussi un peu des cours maintenant.
J'en ai donné avant.
La pédagogie. Bon, mais en tout cas, vous, Frédéric Morel, c'est une part importante de votre vie d'artiste. Hein, la pédagogie, le fait de transmettre.
Oui, et la transmission, bien sûr, c'est un mot qu'on emploie bien beaucoup en ce moment, mais c'est absolument nécessaire si on veut faire la chaîne des savoirs, la chaîne des excellences, parce que là, c'est un peu ça. Je rappelle, Michael était un étudiant exemplaire, et il a su ouvrir sur sa vie d'artiste, sur ses thèmes qui étaient déjà embryonnaires dans son travail et qu'il a su développer parfaitement dans la durée.
C'est pas commun, je suis pas vraiment baigné dans ce monde-là, mais c'est pas commun une ancienne professeure qui expose avec son ancien étudiant.
À ce niveau-là, on n'apprend plus, c'est un dialogue entre le professeur entre guillemets, parce qu'il ne professe pas, en fait, il essaye d'organiser ce qui est proposé par l'élève.
Voilà. Et maintenant, vous apprenez de votre ancienne élève. On va dire disciple, c'est bien disciple.
Oui, disciple.
Moi, je dirais un peu mon mentor. Ouais. Et en fait, moi, pour moi, c'est un peu, par exemple, cette exposition, le fait que Julia ait accepté Frédéric dans l'aventure. J'ai l'impression d'arriver à une étape. Moi, je rêvais de faire une exposition avec Frédéric parce que je la suis depuis très longtemps. Enfin, je la suis à l'école déjà. Je savais qu'elle faisait des créations. Alors, à l'époque, elle faisait pas ça, mais déjà, c'était très. Je m'interrogeais comment elle pouvait faire ces espèces de structures de feutres blancs, mais en même temps avec un raffinement. Donc j'ai toujours été. Et puis en fait, j'ai eu un crush avec elle quand j'étais à l'école. Et donc du coup, moi, quand j'ai découvert ce travail, il y a quand même maintenant pas mal de temps, travail sur le canevas, je sortais presque de l'école. Mmh. T'étais déjà en parallèle.
Ça se concrétise maintenant avec une exposition commune. On travaille ensemble. Comment ça se passe? On va faire une exposition ensemble. Quel est le déroulement finalement? Vous avez un thème commun pour l'occurrence, c'est Bambi, c'est la forêt, les cervidés. Et vous travaillez chacun de votre côté. Vous vous rencontrez, vous vous montrez ce que vous faites. Comment ça se passe?
Là, en fait, le travail était la question était de savoir comment associer. Puis en plus, il y avait aussi Maya, où j'en parlerai après, qui a fait un travail de motion design sur le livre. Donc c'est mon ancien élève. Donc il y a
une histoire de la vidéo,
de la vidéo. Et donc il y a un dialogue, mais en fait, nous, on a échangé par des mots. En fait, on s'est dit, on veut quelque chose qui soit immersif, où on rentre dedans, quitte à que ça soit brouillé, que ça soit du mimétisme de l'animal sur le mur. Et donc, on s'est dit, on partait sur une forêt un peu autour des quatre saisons quand même, qu'on ait une sensation parce que le livre c'est quand même un éternel recommencement.
Moi, j'ai jamais vu ça non plus, mais c'est il y a derrière les œuvres des papiers peints qui ont été réalisés exprès pour l'expo, hein, qui sont dans cet univers-là, qui ont les couleurs chaudes de l'été, de l'automne, froides de l'hiver.
C'est des papiers peints parce que c'est le support.
Oui, j'avais peur en utilisant le mot papier peint qu'on me dise non, monsieur, c'est pas du papier peint.
C'est pas du papier peint parce qu'en fait, c'est pas vraiment au raccord, mais c'est des panoramiques, on va dire. Mais c'est en fait, normalement, ça peut être de la toile ou là, c'est du papier peint parce que techniquement, c'était. Mais ça pouvait, effectivement, les gens pourraient.
De Bambi pourrait très bien décorer son salon avec ce papier.
Parfaitement, parfaitement.
Si vous rencontrez un psychopathe de Bambi,
faut avoir
lancer un business de papier peint. Soyons clairs.
Bon, moi, j'en ai déjà fait du papier peint. C'est un des. Mais là, pour le coup, c'était de panoramique, mais c'est le nouveau papier peint, les panoramiques.
Donc,
vous
n'êtes
pas complètement.
Par rapport au lieu, c'est impressionnant. On est vraiment en immersion, c'est le mot que tu employais.
À la galerie du Crocheton jusqu'au 12 juillet, à voir cette exposition. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission.
Look. jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, on se retrouve toujours dans cette galerie du Théâtre du Crocheten à Monthey avec cette exposition Les Murmures de la Forêt autour de l'univers de Bambi avec nos deux invités Michaël Caillou et Frédéric Morel, les deux artistes de cette exposition à voir donc jusqu'au 12 juillet prochain à Monthey au Théâtre du Crocheten. Foisonnant, luxuriant, on l'a dit, moi j'ai lu et j'ai vu ce lien avec l'art nouveau, avec alors j'ai regardé un peu, moi j'ai une mémoire artistique de Trivial Poursuite un petit peu, hein, mais Klimt, Mucha, j'ai vu des portraits de femmes luxuriants, foisonnants. Est-ce qu'il y a ce lien à la nature aussi dans l'art nouveau?
Alors l'art nouveau, moi je suis plutôt Lalique, donc en fait parce qu'à la base moi ce qui m'intéressait dans l'art nouveau c'était les peignes, moi j'ai tout un travail autour de ça, c'est le point de départ de mon travail, on va dire artistique, et après ça a évolué en fait c'est des codes, c'est-à-dire qu'en fait l'art nouveau c'est un peu une façon de composer le végétal devient la structure. En fait, l'art nouveau, c'est la structure devient esthétique. Et donc moi, je me suis surtout inspiré pour mes plaques de métal, en fait, où d'un seul coup, c'est une seule pièce et tout s'enchaîne. Voilà. Ouais. Et donc c'est là où l'art nouveau pour moi est. J'ai pas forcément nécessairement dans la représentation humaine, même s'il y a des parties de corps. Moi, je travaille beaucoup les ex-voto, etc. Toi non plus. On la retrouve des fois dans les...
Il y a des mains, il y a des...
Voilà. Mais c'est évoqué, c'est-à-dire que de toute manière...
Bon, là, on est dans l'univers de Bambi où on sent que l'homme n'est pas loin, hein, parce qu'il est le méchant dans l'affaire.
Il est partout.
Il est sous-entendu.
Sous-entendu par le danger, par exemple, il y a des représentations avec des serpents pour Frédéric. C'est le danger, et puis bon, de toute manière, dans le roman initial de Félix Salten qui a écrit Bambi, c'est un roman d'éducation pour montrer que la nature n'est pas si merveilleuse que ça. Au contraire, elle peut être dure en réalité. Donc
on va revenir à Bambi, mais j'aimerais juste un mot encore. Frédéric Morel, on s'inscrit forcément dans l'histoire de l'art. Quand on crée, on a des références en tête, ou est-ce qu'il faut, une fois qu'on les a étudiées, qu'on les connaît, il faut les balayer, il faut les mettre de côté?
Quand on n'a pas de référence, on est dans l'art brut, qui est d'ailleurs un merveilleux musée à Lausanne. On a des références très fortes à l'art en général, et on se situe ou pas d'ailleurs, mais il y a une influence.
En l'occurrence, c'est Julia qui a fait le dossier que moi j'ai lu et probablement qui a illustré un peu cette exposition, et c'est elle qui m'a amené vers cette notion d'art nouveau. Elle est importante, cette notion, pour vous, création.
C'est mon point de départ. C'est qu'en fait, moi avant j'étais j'ai eu plusieurs carrières, on va dire, où j'ai toujours travaillé personnellement sur mes thématiques, etc. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de travailler justement cette gravure, ce travail de découpe en métal. Et mon point de départ, c'était une exposition aux Arts Déco où il y a une pièce permanente de bijoux. Et j'avais vu ces fameux peignes sur le mur. Et donc, je me suis dit, je vais travailler la gravure comme des bijoux muraux. Et donc, Et donc, c'est toujours là. Mais moi, depuis longtemps, mes thématiques, c'est mes vacances. Je dessine tout, partout où je suis. Donc, en fait, je pense qu'inconsciemment, elle revient dans mon travail. Mais ça fait longtemps que l'art nouveau est, on va dire, sous-jacent, mais pas forcément. À chaque fois, je vais pas me dire, ah, là, je fais de l'art nouveau.
Il faut que je sois un peu plus art nouveau, voilà.
Pas du tout. Mais bon, c'est par
évidemment,
les principes.
On crée son univers avec son bagage.
Ça existe avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, l'esthétisme. Ça m'a toujours intéressé. J'adorais. On a eu des cours sur Guimard. Moi, je suis très déçu à Paris. On a retiré, par exemple, toutes les entrées de métro. Art nouveau, par exemple.
Des choses très, très bonnes.
Donc il y a un côté un côté désuet dans mes goûts, voilà, de
nostalgie. Une nostalgie. Bon, parlons de Bambi. Quelle affaire ce Bambi. Je vous en veux un petit peu de m'avoir remis dans mes traumatismes d'enfant. On a tous.
Oui, moi, c'est un traumatisme.
Mais oui, bon,
moi,
voilà,
j'ai pas été traumatisé.
Oui, mais justement, c'est intéressant parce que je me demandais en venant vous voir, est-ce qu'on peut encore montrer Bambi, là, pour le coup, le dessin animé, ou lire le livre, parce que la cruauté, j'imagine, du meurtre de la maman, on va dire les mots, et est là dans le livre aussi, bien sûr. Est-ce que c'est encore abordable pour un enfant du 21e siècle? Même vous, on a voulu vous éviter ça.
Alors, je pense que c'est extrêmement moderne, surtout avec les évolutions pédagogiques, je ne sais pas comment dire, parce que moi, je n'ai pas d'enfants, mais je vois mes amis autour de moi qui ont beaucoup d'enfants. C'est à la base, Félix Salten, pour lui, c'était un roman d'éducation. Donc, et il faisait parler les animaux pour dire des choses. C'est vrai que moi, j'avais une lecture assez, on va dire, neuve. J'avais pas forcément connu.
Le dessin animé, vous l'avez pas vu, donc vous n'étiez pas dans cet univers-là. Ouais.
Alors après, si vous voulez, j'ai des images, c'est-à-dire que je voyais, Bambi, on m'en a parlé, il y a la mort de la mère, etc. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu, mais tardivement, donc ça ne m'a pas perturbé plus que ça.
Mais
ça,
je pose cette question parce qu'on a quand même une littérature destinée aux enfants. Si on prend les contes du 19e, c'est extrêmement cruel. La mort est là, toujours. Et puis, on a dilué ça au 20e siècle, on s'est éloigné de la mort. Vous nous le démontrez là avec Bambi.
C'est ça que moi c'est quelque chose qui il y a quelque chose qui me fait peur, c'est la mort évidemment d'aller. Mon travail c'est justement hier on me parlait, on me disait c'est assez marrant parce qu'il y a quand même assez un contraste avec le travail de Frédéric qui peut parfois être plus inquiétant. Moi mon travail est beaucoup plus on va dire de façon extérieure plus facile, plus
dans
enfantin.
Le livre, comme dans l'expo, enfants vont pas être confrontés à une image de mort brutale. Il y a pas de sang qui gicle, etc. C'est plutôt suggéré,
l'humour. Ouais. C'est plutôt de l'humour, je pense. Mais en fait, il y a quand même une thématique. Moi, c'est des natures mortes, par exemple. Je travaille. Ma signature, c'est la mouche. Donc déjà, c'est quelque chose qui était pas forcément qui était en lien avec mon travail personnel. Et après, je pense que avoir peur, c'est pas forcément nécessairement bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que les. Moi, j'ai perdu ma mère assez tardivement. Et justement, ma mère m'a tellement protégé que ça a été un énorme choc. Donc parfois il vaut mieux savoir ce que c'est, enfin de façon pédagogique. Et c'est vrai que ce genre de livre, quand on le lit, c'est pas, on dirait que la violence elle est plus entre les animaux que finalement. Et c'est vrai que Walt Disney en a fait quelque chose de très édulcoré, parce qu'en fait finalement ce qui est choquant dans ce dessin animé c'est la mort de la mère, mais c'est quasiment ce qu'il a gardé uniquement de l'histoire. Alors que si on lit l'histoire globalement, on est dans
marqué,
un roman.
C'est ce qui a marqué tout le monde.
Voilà, on est dans un roman qui est tout à fait. Il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que la mort de la mère. La mort, c'est une anecdote dans le livre. Après, c'est vrai que cette histoire. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, en fait, c'est un truc qui est difficilement supportable. C'est que le roman lui-même a été auto-daffé en 1933.
Voilà, il faut expliquer. Voilà. Auteur juif, expatrié en Suisse.
Voilà, exactement. Et donc, je trouve qu'en résonance avec la société actuelle, le fait de censurer quelque chose, ça m'a. Je me suis dit, faut en parler, faut parler de cette histoire. Et c'est vrai qu'on a Walt Disney, mais que le roman est beaucoup plus, plus intéressant, on va dire, moins.
Bon, c'est un hold-up, voilà. Walt Disney. Hein.
C'est un hold-up.
Frédéric, il a déjà l'acquisition, enfin, il était un peu désespéré, hein, l'auteur du livre.
Il avait besoin de l'argent.
Fin de ville, il avait besoin d'argent, les droits ont coûté très peu cher. Et puis ce film, en 1942, a complètement occulté le livre.
Occulté et oui, pour 1000 francs. Je pense que malheureusement Félix Salten n'a pas bien vécu à la fin de sa vie. Il a fallu qu'il travaille, qu'il fasse beaucoup d'écrits. Parfois, c'est aussi un personnage un peu trouble. Le fait qu'on censure une œuvre comme celle-ci en disant que les Allemands seraient les chasseurs et que c'est un peu, bon voilà,
c'est étrange.
Moi, j'ai pas eu cette lecture-là.
Lui-même est chasseur, donc. C'est une espèce de confrontation.
Donc c'est pas forcément les méchants, les chasseurs.
Lors de la vie, on dirait.
Laissez parler Frédéric un peu. cet ancien disciple qui monopole le crachoir, c'est fou ça.
Non, c'est justement, moi je suis invitée et je me laisse bercer par ces thèmes communs. Mais voilà, dans le livre de Salten, c'est quand même tous les thèmes un peu de la vie avec leur ambivalence. Il y a une ambiguïté entre le fait d'être chasseur et de parler avec la forêt.
Voilà. Vous êtes des personnages de nature. Vous êtes tous les deux parisiens, hein, je crois.
Moi, je suis né à Paris.
Ouais, ouais, parce que moi, il y a un truc qui me frappe aussi quand je vois l'aspect foisonnant. Alors moi, depuis que j'ai un petit chien, je vais beaucoup me balader dans la nature. Et l'empreinte de l'homme est partout. Et le foisonnement, tel qu'on le voit chez vous, tel qu'on le voit chez le douanier Rousseau, par exemple, même si c'est un peu plus exotique, il n'existe plus vraiment. On n'entend plus tellement de bruit. Les animaux se sont retirés. On les a chassés loin. Il y a un rapport à la nature chez vous ou il est imaginaire, il est lointain?
Alors il y a un rapport à la nature parce qu'en fait je vis à Paris, mais je pars en vacances, je voyage, je vois des voilà. Alors c'est vrai que la nature, c'est plus à Paris, c'est plus dans les parcs, etc. Mais il y a un côté très fantasmé parce que c'est quelque chose que moi je n'ai pas connu de façon au quotidien. Voilà, donc j'ai suffisamment voyagé pour un peu.
Bon, je vous fais pas procès en citadin qui aurait pas le droit de parler de la nature. Vous nous proposez de très belles images, hein, qui font appel à notre imaginaire d'ailleurs pour figurer ces murmures de la forêt. Moi j'ai une petite suggestion. Vous avez d'autres univers qui vous... Parce que